Radio Kapi.
Le journal Pascal Massirica.
À la une ce midi, reprise du procès de présumé meurtrier de deux experts de l'ONU au Kassai. Excédés de colère, deux prévenus ont fustigé l'absence des avocats de la défense, ce qui ne permet pas au procès d'avancer. En Ituri, les structures médicales de Komanda sont débordées ce jour-ci par les malades, déplacés et enfouis les atrocités des miliciens en territoire du Rumu. Elles plaident pour l'amélioration des capacités d'accueil et l'octroi des médicaments. Notre invitée, c'est la chef de division de la justice au Nord Kivu, Berthe Tchekanabo, fait le point de la mission conjointe qu'elle a conduite à Nyongera, une concession pénitentiaire située dans le territoire de Rutshuru. Madame, Messieurs, bonjour. Justice pour commencer. La première audience de l'année 2021 dans le procès de présumé meurtrier des deux experts des Nations Unies au Kassai a eu lieu ce jeudi devant la cour militaire de l'ex-Kassai occidental. Une audience marquée hier par les prises de parole des deux prévenus excédés par une nouvelle absence de plusieurs avocats de la défense. Le colonel Mambweni et Jean Bosco Mukanda ont exprimé leur colère face à ces absences répétées qui ne permettent pas au procès d'avancer rapidement. À Kananga, le compte-rendu de Joël Bofengo.
Une audience écourtée du fait de l'absence des avocats de la défense, ce n'est pas la première fois que cela arrive dans ce procès. Deux prévenus ont pris la parole aujourd'hui et n'ont pas caché leur exaspération face à une procédure qui dure depuis près de 4 ans. Si ça continue comme ça, je vais me faire du mal, menace Jean Bosco Mukanda, l'ancien témoin vedette, accusé d'avoir participé au meurtre des Aïda Catalane et Michael Sharp en 2017. Je souffre, monsieur le président. 2 ans et 6 mois de détention, mettez-vous à ma place, déclare pour sa part le colonel Mambweni, qui peine à cacher sa colère, allant jusqu'à dire « La mort ne me fait pas peur, je risque de mettre fin à ma vie ». Faisant preuve de pédagogie, le président des séances reprend la parole et appelle les colonels Mambweni au calme. Le général Tchaïkolo dit comprendre la frustration de l'officier, mais il l'enjoint de faire preuve de retenue devant la cour. S'adressant aux avocats, il leur demande de faire preuve d'humanité pour assister des prévenus dont certains sont en détention depuis plus de 3 ans. De Kananga, Joël Bofengo, Radio Okapi.
3 morts, dont 2 par balle et plusieurs blessés, bilan d'un conflit de limite qui a dégénéré mercredi et jeudi entre les chefferies de Bassoa A et de Batangi en territoire de Lubero au Nord Kivu. Selon des sources administratives locales, un calme apparent règne ce vendredi sur les lieux de l'incident, mais un déplacement de quelques habitants est signalé. À Butembo, une correspondance de Sadiki Aboubakar.
L'incident s'est produit à Mutuamba, un village situé à la limite entre la localité de Vukendo du côté de la chefferie de Bassoa et de Vukununu du côté de la chefferie de Batangi. D'après Paluku Kuliumbwa, fonctionnaire délégué du gouverneur dans la zone, le mercredi, un violent combat avec des armes blanches a opposé 2 familles représentant chacune l'une des 2 localités citées ci-haut. Un mort a été enregistré du côté de Vukununu et des blessés de part et d'autre. Pour se venger, la famille Vukununu est revenue à la charge le jeudi. D'après l'administrateur du territoire, les militaires FARDC sont intervenus pour éviter le pire. En tentant de disperser les membres de ces 2 familles en colère, 2 personnes, membres de la famille Vukendo, ont été touchées par balles et sont mortes sur le champ, affirme Richard Nyimbo Anyimbo. L'administrateur du territoire ajoute qu'un calme apparent règne à présent dans ces villages et toutes les 3 victimes ont été inhumées le jeudi après-midi. Pour l'heure, Richard Nyimbo Anyimbo promet de réunir les chefs de chefferie des Bassoa et des Batangi, plus leur notabilité en vue de statuer sur ces conflits. Butembo, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Et dans la province du Maniema, un conflit foncier entre 2 familles a dégénéré en affrontement. Bilan, 1 mort, plusieurs blessés graves et 5 maisons incendiées mardi soir au village de Tchamba, groupement de Mwassa, chefferie de Basongue 1 en territoire de Kasongo, à Kindu. Le récit de Florence Kizalunga.
Selon la société civile locale, ce dossier dure depuis plus de 21 ans. Une sentence avait déjà été prononcée par la Commission consultative de règlement des conflits coutumiers, CCRCC, en faveur de la famille Penimanda, la désignant comme propriétaire de la forêt Kerele. Cette structure citoyenne fustige la lenteur des autorités locales à mettre en application les recommandations de la CCRCC pour mettre fin à ces conflits. Abeli Kazimoto Dallas.
La sentence était déjà prononcée par la Commission consultative des règlements des conflits coutumiers.
à la justice de Kindou de peser de son poids pour réglementer la situation. Sinon, nous sommes en train de fustiger à la terre qu'affichent les autorités locales et aussi à l'autorité provinciale de peser de son poids pour que la paix règne dans la chefferie de Basongue.
L'administrateur du territoire de Kasongo confirme cette nouvelle. Kingombe, Kitenge et Benoît condamnent ces incidents. Ils sollicitent l'implication de l'autorité provinciale face à cette situation qui tend à dégénérer. Kindou, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Et puis, en mission officielle à Kisangani, dans la province de la Tchopo, le ministre des Droits humains a remis des fonds de réhabilitation provisoire aux victimes des guerres survenues dans cette ville. C'était Place des Martyrs à Kisangani. 50 personnes ont reçu à l'occasion des enveloppes contenant $150 américains. Plus de 3000 autres victimes de ces guerres recevront les leurs à travers la Caritas diocésienne à partir de ce vendredi. Reportage de Jacques Mukonkole.
Bien avant la remise symbolique de ces enveloppes, le ministre des Droits humains est allé déposer une couronne de fleurs au cimetière de la guerre des six jours. À la place des martyrs, le ministre André Lité a justifié le non-déblocage de la totalité des fonds initialement prévus par certaines difficultés, notamment celles liées à la COVID-19.
Ceci constitue une sorte de prélude aux réparations qui arrivent incessamment. En d'autres termes, il y a un solde que nous devons ramener prochainement.
Les bénéficiaires n'ont pas tari des lots envers le ministre des Droits humains, le député Siméno Assiméné, ainsi qu'envers le chef de l'État pour l'accomplissement de cet acte de compassion, lequel est salué également par le gouverneur de province, Louis-Marie Walelufungula.
Comme vous le savez, pour le chef de l'État, c'est le peuple d'abord. Et aujourd'hui, il vient de démontrer à la face du monde qu'il se soucie réellement du sort de son peuple.
Cependant, pour certains activistes des droits de l'homme, l'argent à lui seul ne va pas résoudre le problème. Dismas Kitenge, président du groupe Lotus.
Il faut que le gouvernement s'inscrivent dans la dynamique de la prise en charge holistique des besoins des victimes. On peut construire aussi à côté du cimetière des victimes de la guerre de six jours un monument avec les noms des personnes. Deuxième endroit, la place des martyrs.
Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans un autre chapitre, en Ituri, les structures médicales de la zone de santé de Komanda sont débordées par les malades composés essentiellement des déplacés qui ont fui les atrocités des groupes armés dans leur village en territoire d'Irumu. Selon les autorités sanitaires locales, les nombres de lits sont insuffisants et les stocks de médicaments essentiels insignifiants. Elles plaident par conséquent pour l'amélioration des capacités d'accueil de ces structures médicales et l'octroi de produits pharmaceutiques. Le point de la situation avec vous, Isaac Remoyope.
La plupart des structures sanitaires situées sur l'axe Komanda-Luna dans la zone de santé de Komanda sont saturées par les malades composés essentiellement des déplacés de guerre venus du Nord Kivu et d'autres localités en territoire d'Irumu. C'est le cas des centres de santé de Bwanasura. Selon l'infirmier titulaire, cette structure reçoit 80 malades par semaine, dont 40 déplacés. Pour pallier à cette difficulté, des malades sont placés sur un seul lit avec les risques énormes de contamination. Il y a également les problèmes de rupture des stocks de médicaments. Ils lancent un SOS.
Des déplacés qui viennent de passer par là, et on se débris malgré la distanciation sociale, mais on essaie de mettre deux par lit. Ils ne savent pas comment payer les soins. Nous travaillons dans les nerfs, vraiment. Le gouvernement peut nous aider, les partenaires peuvent prendre la chance de se rescaper.
Le ministre provincial de la Santé indique qu'un projet de construction d'un nouveau bâtiment est en cours au centre de santé de Bwanasura, qui sera également doté de lits. Patrick Karamura ajoute que ces structures reçoivent également des subventions à médicaments pour la prise en charge gratuite des vulnérables.
Les lits à route, les lits déjà venu. On va équiper ce centre qu'on a construit là-bas à Lille. Il y a la salle d'opération, la salle d'accouchement, il y a l'hospitalisation. Nous sommes en train de nous battre pour les médicaments.
Pour une solution durable, un hôpital de référence sera construit à Komanda avec le financement de la Banque mondiale, annonce le ministre provincial de la Santé. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Bonne nouvelle pour les habitants de Mbujimayi et des environs. Dans une année, en effet, cette ville et les localités du territoire de Miabi seront éclairées en courant électrique de la centrale Toubidi-Toubidi appartenant à la SNEL et à la société Anoui. La convention pour les transports du courant électrique a été signée mardi dernier. Selon le chef d'évaluation et reporting, la SACIM a cédé 3 MW et la SNEL va monter une ligne qui partira de Boya pour la ville de Mbujimayi. Emmanuel Ngoi Malangu s'est confié aux confrères de la radio-télévision Fraternité.
La SNEL vient de signer le contrat d'achat d'énergie avec la société SACIM de Toubidi-Toubidi Alors, d'ici là, la SNEL va construire une ligne qui va quitter Boya jusqu'à Mbujimayi. Mais il faut toujours avoir en tête, partout passera cette ligne, ces populations-là qui sont traversées par cette ligne seront alimentées des idées électriques. Nous citons bien sûr, il y aura Boya, il y aura Miabi, il y aura Lusanga, il y aura Kabekamwanga et Mbujimayi. La SNEL ne va pas prendre toute la production de Tubitubiti. La SNEL prendra une partie. La SACIM nous a cédé 3 MW. La SACIM aura aussi 3 MW de réserves tournantes. Ça, c'est en technique. Et les besoins de la SACIM actuellement sont de 6 MW. Donc, la SNEL reste avec 3 MW qu'elle pourra acheminer de Tubitubiti en Mbujimayi. Après, les études sont terminées. On est en train de les amender. On va passer à l'étape de recherche de financement. Le financement, ce n'est pas pour longtemps. Les travaux prendront une année.
Et au Sud Kivu, pendant ces temps, une hausse sensible des prix de première nécessité est constatée à Kamituga, dans les territoires de Mwenga. Ces prix sont passés du simple au triple dans cette cité située à une centaine de kilomètres de la ville de Bukavu, suite à la vétusté de la route qui va de Bukavu à Mwenga. L'office des routes dit n'est pas disposé de matériel pour intervenir sur cette route d'intérêt national. Radio Kapi Bukavu, Emmanuel Elamejoua Kabedi.
À ce jour, un sac de sucre qui se vend à 36 $ américains à Bukavu revient à 100 $ américains à Mwenga. Une bouteille de bière de 3 000 francs revient à 10 000 francs congolais à Kamituga. Cette situation dépasse les habitants de Mwenga qui crient au secours.
Ici à Kamituga, présentement, la vie est tellement difficile. Il y a une flambée des prix qui n'a pas son nom. Un savon coûte actuellement 4 500 francs.
Un bout de ciment coûte 150 000 francs. Auparavant, c'était 35 000 francs. Nous demandons la réhabilitation de la route nationale numéro 2.
La route nationale numéro 2 entre Bukavu et Mwenga est dans un état de délabrement très avancé. Les camions mettent plus de 2 semaines de calvaire pour atteindre la destination. L'office de route du Sud Kivu dit n'est pas disposé de matériel conséquent, mais aussi les intempéries s'y mêlent. Anissé Kakese, directeur.
Effectivement, l'office de route a un problème de matériel. Nos matériaux ont fait 10 ans, 15 ans, ça crée beaucoup de pannes. Mais tout ce qu'on attend le plus, c'est la petite saison sèche. Mais cette petite saison sèche est toujours perturbée, les pluies continuent. Mais espérons que ça va venir d'ici février.
L'office de route plaide également pour le retour au programme de cantonnage manuel pour l'entretien régulier des routes. Emmanuel Elamejoua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
À Matadi, dans le Congo central, à moins de 2 mois, le prix de la farine de manioc a été doublé sur les marchés. Le sac est passé de 50 000 francs congolais à 100 000 francs congolais. La mesurette se négocie actuellement à 1 300 francs congolais au lieu de 800 francs congolais. Les raisons de cette majoration des prix sont multiples selon les vendeuses, comme on l'explique à Matadi, Nana Plurich Mambou.
Le sac de cossettes de manioc vendu à ce jour à 100 000 francs s'est négocié jusqu'à mi-novembre au prix de 50 000 francs congolais. D'après ces vendeuses, le route des dessertes agricoles, eux-mêmes c'est d'intérêt national et provincial, situé dans les territoires d'où proviennent ces farines du manioc, sont fortement dégradées. Transporter cette denrée de ces endroits, notamment Sekebanza, Banzamateke, Luozi, ainsi qu'aux villages situés dans les secteurs de Gombe Sud jusqu'à Matadi, relève d'un parcours de combattants. Cette vendeuse raconte. Par sac, c'est 5 000 francs. Le véhicule n'y accède plus à cause de la mauvaise état des routes. Les ponts sont cassés. Si déjà au niveau des villages, nous dépensons plus de 45 000 francs, nous devons aussi vendre à un prix élevé. Si le gouvernement veut que le prix du foufou soit revu à la baisse, qu'il réhabilite les routes.
Chaque fois qu'il t'en a 20 000, à Bonsamanzela partout.
Avec le prix de la mesurette communément appelée écolo à 1 300 francs, certaines ménagères croisées dans ces lieux de négoce craignent que cette augmentation du prix de la farine vienne accentuer les difficultés à nourrir les habitants de leur ménage. Seul espoir de ces commerçantes, c'est de voir les routes dégradées et le pont cassé qui se situe dans les territoires d'où proviennent ces cossettes de manioc et autres produits agricoles être réhabilités. De Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, le Congolais Constant Omari Selemani, président intérimaire de la Confédération africaine de football et président de la FECOFA, a réagi aux accusations et rejet de sa candidature aux élections du Conseil de la Fédération internationale de football association par la commission de gouvernance de cette institution. Il pense qu'il y a eu vice de forme dans cette décision. On l'écoute.
C'est à la commission de gouvernance de me transmettre ce qu'ils appellent accusations sévères, pour que je sache à leur niveau si ces accusations sont déjà prononcées. C'est-à-dire qu'il y a une condamnation au niveau de l'éthique, ce dont je ne suis pas au courant, pour pouvoir réagir. Les dossiers pendants. Il n'est pas conclu. La dernière conclusion que j'ai envoyée, c'était le 25 janvier. Et le 26, ils estiment que ce sont des accusations sévères. Je ne pense pas. Puisque moi, je vous parle, je suis président intérimaire de la CAF et vice-président de la FIFA. Je continue à exercer. La commission de gouvernance, sur base des suspicions et des allégations, que eux transforment déjà en
une accusation
sévère, ça porte à question. Deux, le dossier est pendant au niveau de la commission d'éthique. Ça signifie que je bénéficie d'un principe universel de droit, la présomption d'innocence. Est-ce que sur base d'une soupçon, on peut arriver à une conclusion? Est-ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui la présomption d'innocence pour créer une nouvelle jurisprudence? C'est que je suis très serein. Je passe mon temps à réfléchir pour savoir la meilleure riposte possible et la voie de recours possible.
Constant Omari Selemani a été interviewé par Alain Foka, journaliste à RFI.
Actualité internationale.
En Algérie, après le départ de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, poussé à la démission par la rue en avril 2019, la justice du pays a lancé une série d'enquêtes pour corruption. Plusieurs procès de proches de l'ex-chef de l'État sont en cours. Des observateurs estiment qu'ils révèlent l'étendue de la corruption qui avait cours légal sous les régimes précédents. La Chine a annoncé ce vendredi matin qu'elle ne reconnaît plus les passeports spéciaux qui sont accordés par la Grande-Bretagne à certains ressortissants hongkongais. Cette annonce fait suite à la décision prise par Londres d'étendre les droits de résidence de ces derniers sur le sol britannique. Et puis aux États-Unis, le président Joe Biden continue de détricoter les mesures qui avaient été prises par son prédécesseur. Comme chaque jour depuis le début de la semaine, il a signé jeudi soir plusieurs décrets par lesquels il remet en place les dispositifs de couverture maladie qui avait été voté sous le mandat de Barack Obama et en partie démantelé par Donald Trump.
L'invité.
Notre invité, c'est la chef de division de la justice du Nord Kivu, Berthe Tchekanabo, fait le point de la mission conjointe qu'elle a conduite à Nyongera, une concession pénitentiaire située dans le territoire de Rutshuru. Elle s'entretient avec Mathieu Ilunga.
Madame Berthe Tchekanabo, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous êtes chef de division provinciale de la justice et vous vous retrouvez à Nyongera, un ancien camp de détention et une concession pénitentiaire située à plus de 75 km de Goma, dans le territoire de Rutshuru. Qu'est-ce qui motive votre visite dans cette concession pénitentiaire?
On est venu ici avec la délégation du ministère de la Justice, du ministère de la Défense, ainsi que les partenaires techniques et financiers, entre autres la MONUSCO, la section d'appui à l'administration pénitentiaire, ainsi que le PNUD, pour voir l'état ou faire l'état des lieux du camp de détention de Nyongera. Et aussi avec les partenaires, voir comment réhabiliter les bâtiments qui sont dans une situation inhabitable. Et aussi, le projet est si grand et on est en train de penser comment mettre encore en mouvement les camps de détention en y plaçant les détenus qui peuvent se prendre en charge et aussi exercer plusieurs activités de réinsertion sociale. Raison pour laquelle on est là, mais dans l'entretemps aussi, on a eu à pouvoir présenter à la population le nouveau directeur du camp de détention, parce que après le décès du directeur Zirimani, qui nous demandons la paix à son âme, l'hiérarchie n'a pas affecté jusque-là. C'est maintenant qu'on vient d'affecter un fils digne du terroir à la personne de Allégresse Kongolo pour essayer de faire chaque fois les relais, les rapports sur l'état du camp de détention de Nyongera.
Madame chef de division, en quoi va consister les travaux sur les sites du camp et de la concession pénitentiaire de Nyongera?
Il y aura les autorités qui viennent se prégner de l'état des lieux. On va faire la visite de ces bâtiments et par la suite, ils vont discuter avec les partenaires techniques et financiers la réhabilitation, mais aussi l'utilisation de ces bâtiments pour y abriter les détenus pour la réinsertion communautaire.
Il y a une catégorie de gens qui habitent le camp et exploitent la ferme ou la concession pénitentiaire. Quel sera leur sort? ils seront chassés ou qu'est-ce qu'on va faire de ces déplacés?
On n'a pas dit qu'on va chasser personne parce que la population, ce qu'on va faire, c'est pour l'intérêt de la population. Il y aura de ces activités qui seront bénéfiques à la population et par conséquent, l'État congolais est le patron de la population et ne peuvent pas encore une fois chasser la population. Mais seulement qu'ils doivent exploiter tout en sachant très bien que c'est un cas de détention de Nyongera qui a le patron qui est l'État congolais.
Mais il semble que qu'à un certain moment, cette concession a été départagée en sections, ce n'est pas au complet comme ça était dans les temps.
Raison pour laquelle on est là pour l'État des lieux, on ne peut pas dire que c'est vrai ou c'est faux parce qu'on n'a pas une situation, on n'a pas un rapport. Vous comprenez avec moi que ça fait 3 ans que le directeur Zirimani était là et qu'il a été abattu dans sa résidence avec sa femme et personne ne nous fait plus rapport. Raison pour laquelle on place la personne qui va nous faire un état des lieux, qui va donner la situation réelle à la hiérarchie et nous allons remonter les rapports acquis de droit et c'est là où on peut se dire s'il y a spoliation ou pas. Mais pour le moment, on ne connaît rien, on vient voir qu'est-ce qu'on pourra faire en termes de projet, en termes d'appui par les partenaires qui nous ont accompagnés. On a loti même la concession. Et c'est ce qui va permettre à nos partenaires de pouvoir évaluer par rapport au terrain et qu'est-ce qu'ils vont ajouter comme appui. Parce que si on va réhabiliter, ils doivent comprendre les résultats qu'ils attendent par rapport à la réhabilitation. Et si on mettait nos frères, nos sœurs qui seront en situation de privation de liberté, ils doivent comprendre s'ils cultivaient un lopé de terre, ils peuvent quand même survivre par rapport à la... C'est ça l'objectif. Ce n'est pas qu'on peut s'opposer à ce qui existe. L'administration, il est indivisible. C'est la continuité. Mais on doit comprendre et on doit insérer aussi des projets qui seront bénéfiques à la population dans sa globalité, mais aussi aux services. Et de travailler en collaboration, donner des informations pour documenter les rapports d'état des lieux. Parce que nous avons besoin de toutes ces informations dans un document. Et c'est le document qui va permettre à ce que les ministères puissent partager les informations avec le partenaire technique et financier. Parce que nous-mêmes, on ne paie rien. Voilà.
Madame Passy, nous vous disons merci.
Merci, monsieur et madame.
C'était l'invité de Radio Okapi, Madame Berthe Tchekanabo, chef de division provinciale de la justice du Nord Kivu. Elle était interviewée par Mathieu Lunga Chamboui. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. Merci à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision de Gilles Nyamouni Monachango.